Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Bram FM, il est 13h passé de 2 minutes, nous sommes le 6 janvier 2023 et mon invité aujourd'hui dans le studio à mes côtés c'est vous, Turane Pilot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chanteuse et accompagnatrice vocale et en première partie d'émission nous allons ensemble parler de votre travail autour de la voix. À 13h30, vous entendrez le journal régional. En deuxième partie d'émission, Johan sera avec nous pour nous parler de l'actualité du sport en 2023 et des grands événements à venir. Et après 10 ans de tournage entre l'Algérie et la France, Samuel Abbe, réalisateur originaire de Limoges, va sortir son film « One, two, three, vive à l'Algérie ». Ce documentaire suit la relation des Algériens avec le foot sur fond de deux Coupes du Monde et dévoile la complexité des liens entre la France et l'Algérie. Vous l'entendrez à 13h50, c'est le sujet de la chronique en Limousin. À 13h55, la météo sera au rendez-vous, c'est promis. Et voilà le programme de l'heure à venir. Vous êtes ici, sur Bram FM, jusqu'à 14h et nous sommes en direct. Et rebonjour, Turane Pilot.
Bonjour.
Je le disais en introduction, vous êtes chanteuse et accompagnatrice vocale ici en Corrèze et vous proposez des accompagnements individuels pour celles qui souhaiteraient s'approprier pleinement cet outil qu'est la voix. Vous proposez aussi des ateliers collectifs et du chant prénatal et d'autres choses encore. On va revenir sur chacune de vos pratiques. Mais avant, j'aimerais qu'on vous découvre un peu, vous, Turane. Alors, grande question et vaste question, qu'est-ce que c'est la voix pour vous ?
Ah oui, alors très très vaste question, effectivement. La voix pour moi, je crois que c'est d'abord, alors c'est pas que pour moi, hein, mais ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est le fait que ce soit la première chose avec laquelle on se présente aux autres, au monde. Quand on a quelqu'un en face de soi, on a bien sûr le langage corporel qui est très présent. Si vous avez quelqu'un pour la première fois au téléphone, eh ben, la première interface que vous allez avoir avec cette personne, c'est sa voix et la vôtre qui se rencontrent. Donc c'est avant tout notre identité, vraiment très profonde. Et à partir de là, on peut tirer une multitude de ficelles qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. Voilà, je vais pas trop m'apesantir parce que ça peut aller très loin. Mais voilà, pour une petite introduction en tout cas.
Alors racontez-nous cette rencontre, enfin, la rencontre que vous avez faite, vous, avec l'univers de la musique et l'univers, enfin plutôt même vocal.
Alors la musique, pour moi, elle est présente dans ma vie depuis vraiment toute petite. J'ai eu la chance d'être née dans une famille où la musique était là tout le temps, et puis avec des portes ouvertes sur plein d'univers très très différents. Donc j'ai pas de cloisonnement esthétique au niveau musical, je suis assez curieuse de plein de choses et j'ai été voilà, élevée là-dedans. Et j'avais une maman qui chantait déjà beaucoup, qui pratiquait le chant plutôt dans une forme chorale, mais avec Agnès Brosset qui est quelqu'un qui enseigne au Conservatoire de Pontivy, alors qui devrait être officiellement à la retraite. Mais qui ne peut pas s'empêcher de continuer et qui a même fondé une académie d'art vocal à Pontivy maintenant. Et donc j'ai commencé le chant avec cette personne-là, d'abord en tant que figurante pour des opéras pour enfants, enfin pour des opéras adultes, mais en tant que figurante en étant enfant sur scène, et puis après en faisant partie d'opéras pour enfants. Donc à voir déjà comment ça se goupillait, tout le travail de répétition, travailler avec des instrumentistes professionnels et puis après le travail de la représentation sur scène aussi et le travail un peu plus technique de il y en avait très peu à ce moment-là mais il y en avait quand même un petit peu de technique vocale en fait, comment on utilise la voix.
Alors on va revenir sur les différentes techniques vocales que vous utilisez dans votre pratique parce qu'il y en a beaucoup. Vous avez eu besoin un jour de comprendre le phénomène physiologique de la voix. Alors expliquez-nous ce besoin et qu'est-ce que vous entendez par phénomène physiologique ?
Alors
vaste question encore.
Oui, donc disons que si on est juste dans l'étymologie, hein, ce qui est la physiologie, c'est vraiment la nature profonde de la voix. Le phénomène. Alors, j'ai besoin de comprendre le phénomène physiologique, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de manières d'aborder la voix. Il y a des manières, donc ce qu'on trouve encore maintenant dans certains conservatoires, même si ça fait quand même plusieurs années que ça bouge pas mal à ce niveau-là, parce que on se rend compte qu'il y a justement beaucoup d'autres possibilités d'aborder le phénomène vocal, la production vocale. Mais jusque pendant longtemps, on considérait vraiment la voix comme juste des cordes vocales. On ne savait pas trop bien ce que c'était. Et quand on était formé à faire de la pédagogie de la voix, finalement, on était formé avec des images un peu floues, des métaphores, gonfler le ventre, respirer par le ventre. Enfin voilà, des choses qui anatomiquement, en fait, n'avaient pas lieu d'être parce qu'elles n'étaient pas justes. Et donc, j'avais besoin de moi remettre, en fait, de comprendre vraiment comment ça marchait, tout ça. Et il y a maintenant pas mal de gens qui se sont intéressés à ça. Et puis, l'imagerie médicale a aussi beaucoup évolué depuis. Donc, on a beaucoup, beaucoup plus d'informations aujourd'hui que ce qu'on avait il y a 10, 20, 30 ans. Et donc, on peut recouper des choses qui avaient été pressenties par certaines personnes en utilisant différentes techniques qui maintenant, avec l'imagerie médicale, on peut vraiment se dire « Ok, bon bah voilà, là, il y a un phénomène physiologique qui crée une réalité anatomique et pas juste de la métaphore qui ferait qu'il faut avoir un fil qu'on tire au-dessus de la tête et puis une queue de kangourou. » Enfin voilà, ce genre d'images qui sont très, très utilisées encore. Hein, y a encore des gens qui utilisent ce genre de choses. Mais qui fait que, en fait, comme on a chacun notre représentation d'une image métaphorique, c'est pas une réalité anatomique. Donc, comment on fait quand on a chaque individu un corps différent de la personne d'à côté? Comment on fait pour s'approprier sa réalité anatomique? Parce que la réalité anatomique d'une personne n'est pas celle de l'autre. On a beau avoir les mêmes organes, le fait qu'on soit grand, petit, épais, mince, tout ça, ça joue, en fait, sur comment on peut s'approprier notre voix et notre façon de la travailler.
Et vous vous êtes formé pendant plusieurs années, j'imagine, avec différents formateurs et formatrices à toutes ces techniques. Chacun et chacune avait, j'imagine, une manière différente d'aborder cet outil incroyable qu'est la voix. Quel est votre rapport à la transmission, Turane ?
Alors, la transmission, c'est quelque chose de très important pour moi parce que, voilà, on en revient un peu à ce que j'étais en train de dire juste précédemment, c'est-à-dire comment on fait... Pour moi, en tout cas, une bonne transmission, quel que soit le sujet, c'est de pouvoir rendre la personne autonome avec le sujet dont on s'occupe, et que ce soit la voix ou que ce soit autre chose. Je trouve ça important, quand on est pédagogue, de faire en sorte que... alors, j'aime pas trop le mot élève et j'aime pas trop non plus le mot professeur. C'est pour ça que moi, je me définis pas en tant que professeur de chant, mais en tant qu'accompagnatrice vocale. Parce que comme je disais, on a chacun notre anatomie et donc chacun notre appropriation. Et c'est quelque chose qui se fait pas dans une direction pyramidale, mais qu'on fait ensemble en fait. Et comment on peut, en tant que transmetteur, pédagogue, faire en sorte que la personne se retrouve autonome, lui donner des outils qu'elle puisse s'approprier pour repartir en faisant quelque chose toute seule ensuite, mais pas qu'elle soit...
S'approprier l'outil qui est sa propre voix.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si à un moment donné, on a obligation d'être à côté du professeur de chant pour pouvoir faire certaines notes, bah, ça veut dire que la transmission, elle n'est pas, pour moi, efficiente. Et ce n'est pas ce vers quoi j'ai envie d'accompagner les gens.
Alors, dans quelques instants, on va revenir sur justement les différentes pratiques et les différentes techniques que vous proposez autour de la voix. On va faire une pause en musique. On va s'élever un peu dans un moment magique que vous nous avez proposé, que vous avez choisi, Turane Pilot. Vous êtes mon invité, on est ensemble jusqu'à 13h30. Vous êtes ici sur Bram FM. On écoute Yunsuna et on se retrouve juste après pour continuer cette interview.
Do bado da do, bado da do, bado.
Suna avec le titre Memento Magico. Vous êtes ici sur Bram FM. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie aujourd'hui de Turan Pilo, chanteuse et accompagnatrice vocale. Et c'est vous qui avez fait ce choix musical, excellent choix musical, qui illustre très bien la pluralité de possibilités qu'a cette voix. Parlez-nous de ce titre et qu'est-ce qui vous évoque ?
Mais pour moi, c'est un peu un condensé, un concentré de beaucoup de choses. Yusuna, c'est bon. Là, on est sur une chanteuse, une vocaliste avec une virtuosité quand même, avec un très très haut niveau. Mais c'est aussi comment en fait ce haut niveau de chant, de maîtrise vocale, peut amener dans des registres très différents. Là, on va vraiment du lyrique au son cristallin le plus pur jusqu'à presque de la voix saturée, et puis dans d'autres titres elle part même carrément sur des choses très très rock'n'roll. Comment toute cette étendue de possibilités vocales rend la vocaliste finalement très très libre dans son interprétation, dans son jeu comme une instrumentiste en suivant les motifs mélodiques de la guitare là, ce qui donne ce petit côté vraiment très très agréable aussi à ce titre là. Et donc, pour moi, c'est ça, c'est vraiment l'étendue des possibilités qu'on peut avoir avec une voix qui est bien maîtrisée.
Le champ des possibles qui prend tout son sens. Et je le disais avant la pause musicale, vous proposez divers accompagnements individuels et collectifs. Vous accompagnez les personnes qui souhaitent s'approprier leur voix. Et dans votre pratique, vous utilisez diverses méthodes. La psychophonie, l'euphonie vocale, le yoga du son, technique vocale, physiologie de la voix. Alors qu'est-ce que sont ces pratiques ? Est-ce que vous pouvez nous en décrire ? Parce que je n'en connais pas la moitié.
Oui, alors ça dépend de laquelle vous souhaitez parler en premier.
La psychophonie, par exemple.
La psychophonie. Alors, ça va être difficile de condenser ça. Si je le dis de façon très, comment dire, très, très rapide, la psychophonie, elle a été inventée en fait par une chanteuse lyrique qui était également professeure de chant, qui s'appelait Marie-Louise Auchet. Elle a inventé ça dans les années 60. Sur de la base d'observation pure, donc c'était vraiment complètement empirique. Elle a observé sur elle et puis ensuite elle a mis à profit la forme répétitive de cours de chant pour faire observer ça aussi à ses élèves. En fait, elle a établi ce qui s'appelle l'échelle des résonances. Chaque fréquence, chaque note en fait est une fréquence et chaque fréquence de note vient résonner dans un endroit précis du corps. Et à partir de cette observation-là, elle a mis au point toute une technique qui est entre de la musique et presque de la thérapie, parce que finalement, on peut venir activer, actionner ou réactiver des zones du corps juste par le son, par les fréquences des notes. Donc ça, je le fais vraiment en très, très raccourci, mais c'est un travail qui est très intéressant. Et on y reviendra peut-être si par la suite on parle du chant prénatal, parce que c'est également basé là-dessus en fait.
Oui, vous proposez des chants prénatals. Alors ça peut être le moment peut-être d'expliciter aux auditoristes qui ne savent pas ce qu'est le chant prénatal, d'expliquer ce que c'est, à quoi ça sert.
Oui, cette histoire d'échelle de résonance mise au point par Marie-Louise Auchet, elle lui a également servi à donner à naissance au chant prénatal. Ce qui se passe en fait, quand on est une femme et quand on est enceinte, alors quand on est une femme, toute la vie, on est soumise à des changements hormonaux. Hein, par nature et par définition, la femme est plutôt cyclique. Et quand on est enceinte, ce qui se passe, c'est que le jeu hormonal fait que les muqueuses et les tissus sont plus malléables, plus souples. Et les cordes vocales font partie, n'échappent pas à cette règle-là. Et donc, on se retrouve avec une voix qui bénéficie de plus de graves. Dans l'échelle des résonances de Marie-Louise Auchet, on s'aperçoit en fait que ces graves peuvent venir notamment jusque dans la zone du bassin et de l'utérus. Donc là, on commence à deviner de quoi il s'agit, c'est-à-dire qu'avec sa propre voix, on va pouvoir venir détendre des zones qui vont avoir besoin d'être détendues, surtout dans un moment comme l'accouchement. ça, c'est une partie du champ prénatal. C'est vraiment la partie, on va dire, très active et très efficace dont on peut se servir pour le moment de l'accouchement. Mais le champ prénatal, il faut savoir que ça démarre, en fait, dès le début de la grossesse. Enfin, ça démarre quand on a envie de le démarrer, mais ça peut être démarré dès le début de la grossesse et jusqu'aux 3 mois du bébé, parce qu'après, on passe sur autre chose. Le bébé commence à gigoter un peu plus. Donc là, on est plus sur du champ parent-bébé. Mais... il y a aussi cette notion très forte dans le champ prénatal sur laquelle Marie-Louise Auchet a beaucoup travaillé, et aussi c'était le moment en fait avec Michel Audin de tout ce mouvement dans les années 70 qui était pour la naissance sans violence, hein, parce qu'il faut savoir quand même qu'à cette époque-là, quand un bébé sortait du ventre de sa mère, il était pendu par les pieds, on lui mettait une claque sur les fesses pour qu'il hurle un bon coup pour être sûr qu'il était en vie. Donc bienvenue dans la douceur de la vie terrestre. Voilà, Michel Audin qui était gynécologue et qui travaillait notamment à la clinique des Lilas a mis au point avec d'autres tout un accompagnement autour de l'accouchement dit physiologique en tout cas, et un accueil plus bienveillant du bébé. Et donc ça fait partie de toute cette vague-là, le champ prénatal, pour pouvoir rendre les femmes se réapproprier son corps. Aussi savoir que bah voilà, on a des moyens efficaces de respiration, de chant, qui vont venir faire de la détente, du massage au bébé et puis également à la maman. Et aussi venir mettre de façon très active le papa.
Oui, parce que le bébé ressent des fréquences plus graves.
C'est ça.
Il est plus réceptif.
C'est ça. Alors, c'est pas tant qu'il est plus réceptif aux fréquences plus graves, c'est surtout que les fréquences plus graves viennent détendre une zone importante pour la maman. Par contre, le bébé entend aussi la voix de son père, et les hommes ayant naturellement une voix plus grave que les femmes peuvent vraiment aussi participer à ce moment-là et venir faire une espèce de nappe de son pour détendre et participer pleinement à l'accouchement. Et aussi, ça crée ce lien, étant donné que les hommes ne vivent pas dans leur chair les transformations de la grossesse, et des fois, ils peuvent se sentir un peu à l'écart face à tous ces bouleversements que les femmes vivent, elles, vraiment très profondément, c'est le cas de le dire. Et donc, le champ prénatal fait aussi le lien. Il y a vraiment cette volonté de la triade maman, papa, bébé dans le champ prénatal, dans les exercices corporels qui sont proposés, dans les chansons, parce qu'il y a aussi tout un répertoire de chants qui est dédié au temps de la grossesse et qui servent d'exutoire pour certaines émotions pour les mamans, mais qui servent aussi à se former un petit répertoire familial que bébé va déjà s'approprier lui aussi in utero et qui va servir ensuite pour le bercement. On sait que dans les premiers temps, des fois, c'est un peu compliqué pour les petits, tout petits, de trouver le sommeil. Et ça, c'est aussi un moyen très efficace quand le papa ou la maman rechante des choses que le bébé a déjà ressenties in utero. Et ben, il se retrouve dans un endroit de sécurité. Et quand il est en sécurité, il peut s'endormir tranquillement.
Ouais. Donc vous avez des pratiques, on l'a dit, individuelles, vous avez aussi des pratiques collectives, on n'aura pas le temps d'en parler et je suis bien navrée. Oui, on l'a dit, il faudra au moins 3 ou 4 émissions et je vous réinviterai avec grand plaisir. Parce qu'on n'a pas parlé, vous faites un atelier mensuel, La Voix des Lunes, un atelier uniquement pour les femmes. J'invite tous les auditeurs et les auditrices à se rendre sur votre site internet pour découvrir toutes vos pratiques. Avant qu'on se quitte, je le rappelle, vous êtes chanteuse Turane, on l'a dit depuis le début de l'émission, j'ai dit plusieurs fois. Les Corréziens et Corréziennes ont déjà, et peut-être sans doute, eu l'occasion de vous voir aux côtés des Guillaume Tout Seul. Parlez-nous de votre actualité musicale, Turane.
Oui, bah alors avec les Guillaume Tout Seul, on a enregistré un EP en juillet qui va avoir une sortie là au printemps prochain. Ensuite, donc ça c'est pas moi hein, en l'occurrence qui porte ce projet-là, hein, c'est Guillaume Tout Seul en trio ou à deux, parce que voilà, il y a plusieurs formules qui est de la chanson, comme il aime à le dire, engagée, pas compliquée. Donc ça ça fait partie d'un projet musical auquel je participe. Et après, moi, je suis sur la création là d'un autre projet musical que je porte avec trois autres musiciens qui s'appelle 4L et qui est juste en train de naître là. On a eu l'occasion de faire naître ce projet. Voilà, ça s'est fait assez spontanément sur une demande fortuite et puis du coup ça c'est en train de prendre forme. Mais moi j'ai passé beaucoup beaucoup de temps à me former ces 10 dernières années, donc j'ai un peu délaissé ce côté-là et là j'y reviens avec plaisir parce que j'ai vraiment besoin des deux, et l'activité de transmission pédagogique et l'activité artistique me nourrissent et se nourrissent l'une l'autre aussi.
Alors, on ne l'a pas dit, hein, vos ateliers portent le nom, enfin je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, Accord Sensible. Mmh. Et il y a toutes les informations sur votre site internet qui est extrêmement bien fait. Peut-être, est-ce que vous pouvez rappeler tout ce que vous proposez et où est-ce qu'on peut retrouver toutes les bonnes informations concernant vos activités, s'il y a des auditeuristes qui souhaitent vous contacter, Turane Pilot?
Alors, bah, effectivement, le site internet, c'est déjà une bonne porte d'entrée. C'est non exhaustif, mais il y a quand même déjà une bonne source d'informations. Et après, il y a également une page Facebook, Accord Sensible, pour suivre les activités. Et sur le site internet, vous trouverez également mes contacts, l'adresse mail et le numéro de téléphone.
Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui, Turane Pilot. Je rappelle que vous êtes chanteuse et accompagnatrice vocale. Rendez-vous donc sur le site Accord Sensible, tout attaché sensible avec un s.com pour tout découvrir et puis pour contacter Turane Pilot si vous le souhaitez. On se quitte avec un titre musical que vous avez choisi, Les fautes d'orthographe de Mathéo Langlois. On l'écoute. Merci encore d'avoir été
Merci
avec nous aujourd'hui.
Vous. Merci beaucoup.
C'était comme un livre, on pourrait ouvrir et fermer l'histoire un peu quand on le veut. Et quand vient le soir, quand s'endorment les amoureux, on poserait son bouquin à côté de son béguin. À côté c'est bien mieux qu'en face. Vivre, si c'était comme un livre, on pourrait sauter les chapitres, les passages trop douloureux. Mais la vie la veille, écrit des mots que l'on n'efface pas. Et non, mais pas de marquer tous les rêves brisés et puis tous les faux pas que l'on a déjà fait. Mais tout ça, c'est pas grave. Les fautes d'orthographe s'inscrivent toujours dans les plus beaux des paragraphes. Quand on relit son livre, laissez tourner page, laisser la place aux autres d'inscrire un petit mot dans votre ouvrage. Ainsi s'écrivent les plus beaux des livres. Du destin, à chaque oiseau sa plume, à chaque auteur sa patte, à chacun son bouquin. Sourire de ses ratures, avoir le choix dans l'écriture et se laisser le droit d'écrire les mots comme on les voit. Car de nos prisons, les mots nous délivrent. Oh, vie.
les fautes d'orthographe de Mathéo Langlois, le délicieux choix de Turan Pilo, qui était mon invité pour toute cette première partie d'émission. Dans quelques instants, nous poursuivons cette émission. Vous êtes ici en musique. Je vous ferai découvrir un titre d'actualité. Pour l'heure, il est 13h passé de 31 minutes. Johan sera avec nous aussi. Hein, je ne l'oublie pas, d'ailleurs, il m'a rejoint dans le studio. Il sera avec nous pour nous parler d'actualité sportive pour cette année 2023. On se retrouve donc dans une minute. Non, plutôt 4. C'est l'heure du journal régional. Vous êtes ici sur Bram FM.
L'actualité en Limousin et Périgord, le journal de Radio Associative Libre. Sébastien Péjou.
Bonjour à tous. Le hameau La Borderie sur la commune de Lascaux en Corrèze était inaccessible hier après-midi. Se déroulait une reconstitution dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Leslyne Ravel. C'est ici que sa voiture avait été retrouvée. La mère de famille de 39 ans est portée disparue depuis le 30 décembre 2018 suite à une dispute avec son mari. Ce dernier, faute de preuves, est libre, sous contrôle judiciaire. Beaucoup d'espoir repose dans les conclusions de cette reconstitution. Autre affaire judiciaire, nos confrères du Populaire du Centre révèlent que l'homme de 31 ans qui avait tué et démembré sa grand-mère est déclaré irresponsable. Les faits s'étaient passés le 1er janvier 2020 à Saint-Léonard-de-Noblat en Haute-Vienne. Suite à deux expertises psychiatriques, il est déclaré pénalement irresponsable de ses actes, donc à ce stade il n'y aura pas de procès. L'affaire est à présent en cours de cassation. L'individu est toujours hospitalisé dans un établissement spécialisé. Le patient qui avait fugué du centre hospitalier Vauclair de Montpon-Ménestérol a été retrouvé hier. Une fugue depuis mercredi après-midi de l'établissement Périgourdin spécialisé en psychiatrie. Très peu d'informations nous sont parvenues au vu de la dangerosité de cet homme de 58 ans condamné plusieurs fois pour meurtre. Buja, en Corrèze, ne fait plus partie de la communauté de communes Haute-Corrèze Communauté. Le divorce entre la commune et la collectivité est acté depuis le 1er janvier dernier. Un divorce, Olivier Serac, qui couvait depuis plusieurs années.
En effet, d'autant plus que c'était même un argument de campagne en 2020 pour l'actuel maire de Buja, Jean-Yves Urbain. Pour lui, sa commune de Buja est entourée de communes de la Comcom Vézère, Monédière, Mille Sources, c'est-à-dire Trégnac et ses environs. Autre argument pour Jean-Yves Urbain, c'est l'étendue beaucoup trop grande, selon lui, de Haute-Corrèze Communauté, une Comcom qui englobe véritablement tout le nord-est du département de la Corrèze, ainsi que des communes du sud de la Creuse. C'est donc la préfecture de la Corrèze qui a enregistré et validé cette séparation. D'un point de vue financier, Buja va devoir payer ce qu'elle doit à son ancienne famille, Haute-Corrèze Communauté, à savoir 72 000 euros au titre du financement et des investissements de la collectivité. Ce remboursement devrait s'étaler sur les 15 prochaines années. Quant à l'avenir de Buja, il se fait désormais vers la moyenne corrèze au sein de la communauté de communes Vézère, Monédière, Mille Sources.
Merci Olivier. En rejoignant cette nouvelle communauté de communes, Buja gagne aussi 3 sièges supplémentaires au sein de la collectivité, puisque désormais 4 élus communautaires de Buja siégeront à Vézère, Monédière, Mille Sources au lieu d'un seul élu communautaire lors de son passage par Haute-Corrèze Communauté. Dimanche, c'est la fête de l'Épiphanie, une période paradoxale pour les boulangers limousins. C'est l'une des périodes les plus lucratives de l'année, mais la hausse du prix des matières premières et de l'énergie les contraint à augmenter le prix de la galette. Pour Stéphane Collignon, président de la Fédération des boulangers de Haute-Vienne, il y a en plus le problème de la main-d'œuvre.
Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on a deux facteurs qui sont hyper importants. Donc il y a tous ces problèmes-là de hausse de prix et tout le tralala. Tout le monde met ça sur le dos d'Ukraine, mais le beurre, ça vient pas d'Ukraine, hein. C'est nous qui le fabriquons, ça vient de chez nous. Hein. Et il y a autre chose, hein, c'est qu'en fin de compte, il y a des gros problèmes de main-d'œuvre. On cherche, tout le monde cherche de la main-d'œuvre, tout le monde, et on n'arrive pas à trouver. Et le problème, c'est que la France, on était quand même le pays où tout ce qui touchait l'alimentation, on était mondialement reconnu. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des tours de main qui se perdent, il y a des savoir-faire qui se perdent.
Propos recueillis par Aymeric Violet de RCF Limousin. En Limousin, 3 boulangeries ont déjà mis la clé sous la porte à cause de l'explosion du coût des énergies. Un guichet en préfecture doit ouvrir dans les prochaines semaines pour évaluer la situation des boulangeries cas par cas. C'est officiel depuis hier soir, Benoît Badiachil intègre l'équipe de Chelsea. Un transfert à 40 millions d'euros pour le défenseur originaire de Limoges. Le footballeur de 21 ans a passé 6 ans avec l'AS Monaco. Son premier club fut le Limoges Football. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.
Vous êtes ici sur Bram FM.
Et vous retrouverez le journal régional à 17h et à 18h30. Oui, vous êtes ici sur Bram FM au 98.3 ou via notre site internet bramfm.com. Je rappelle que notre rubrique podcast n'est toujours pas disponible et que nous nous en excusons. Nous tentons le tout pour le tout de communiquer avec la Californie pour trouver une solution, mais il semblerait qu'il soit dans une tempête, mais c'est pas une blague, donc on n'a pas de nouvelles. Mais rassurez-vous, on va trouver une solution et les podcasts ne seront pas perdus, ils sont juste en stand-by. Voilà, bien sûr, je vous redonnerai toutes les informations. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 14h. Dans une quinzaine de minutes, ce sera la chronique en Limousin, suivie de la météo. Pour l'heure, j'ai le plaisir de t'avoir à mes côtés, Johan.
Bonjour.
Bonjour, je te souhaite une excellente année et surtout une excellente année de belles actualités sportives.
Merci.
Et donc c'est à toi de t'élancer pour ta chronique. Je crois que tu voulais nous parler un peu des événements, des grands événements sportifs attendus cette année.
Oui, tout à fait. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par vous souhaiter une excellente année. Et effectivement, tu as raison, j'ai préparé un petit topo des événements sportifs prévus en 2023. En tout cas, ceux qui moi, vont me marquer peut-être plus que d'autres. Pour les passionnés de sport auto, on est en plein dedans, puisque l'édition 2023 du Dakar, qui se déroule actuellement en Arabie Saoudite, est lancée depuis la fin de la semaine dernière. Alors, nos Français ne sont pas forcément à la fête au classement général, mais c'est une épreuve où, en plus d'être un excellent pilote, il faut aussi avoir un peu de chance, éviter les problèmes mécaniques, les crevaisons. Ce qui, comme je viens de le dire, n'aura pas forcément été le cas de nos Français, même s'il y en a un qui quand même se retrouve sur la deuxième marche du podium en auto, mais c'est quelqu'un qui a l'habitude de gagner et qui ne vient pas pour être deuxième. Pour ce qui est du sport auto, vous ne manquerez pas le traditionnel Grand Prix de Monaco fin mai, qui sera le seul à se dérouler, alors entre guillemets, sur notre territoire. À ce Grand Prix s'ajoutent bien entendu les traditionnelles 24 heures du Mans qui ont lieu mi-juin. Donc ça, c'était pour les sports auto, on va dire. Parmi les événements qui m'intéressent le plus, il y aura bien entendu la Coupe du Monde de rugby qui va se dérouler en France du 8 septembre au 28 octobre. Notre équipe de France fait partie des immenses favoris après avoir battu toutes les plus grandes équipes de rugby ces derniers mois. Nous avons dans chaque ligne des joueurs qui comptent parmi les meilleurs joueurs du monde à leur poste. À noter en plus que cette équipe a pris l'habitude de ne plus perdre. Nous sommes sur une série en cours de 13 victoires consécutives, ce qui constitue un record dans l'histoire de l'équipe de France. Série en cours et espérons que ça dure. Avant cette Coupe du Monde, l'équipe de France va disputer le traditionnel tournoi des 6 nations dont elle est la tenante du titre avec un grand chelem à la clé. Le grand chelem, pour les non-initiés, ça veut dire qu'on a gagné nos 5 matchs lors du tournoi précédent, c'est-à-dire en 2022. Le calendrier cette année s'annonce compliqué avec des déplacements en Angleterre et en Irlande, mais ce tournoi va permettre une répétition générale et une dernière revue d'effectifs avant l'échéance mondiale qui sera pour nous en fin d'année. En ce début d'année vont aussi avoir lieu en France les mondiaux de ski alpin à Courchevel-Méribel. Alors là aussi des chances de médailles avec des athlètes tels que Tessa Worley, Alexis Pinturo, Clément Noël et j'en oublie des wagons parce qu'on a beaucoup de skieurs qui sont très très bons. Ce sera aussi l'occasion de voir la skieuse américaine qui est en train de faire voler tous les records, Michaela Schifrin. Elle domine son sport depuis des années dans toutes les catégories, elle sait skier tout ce qui est skiable, même ce qui ne l'est pas. Elle va cet hiver battre le record du monde du nombre de victoires sur le circuit mondial. Il ne lui en manque qu'une pour égaler le record de Lindsey Vonn et 5 pour battre le record absolu hommes et femmes confondus. Lindsey Vonn, c'est une légende du ski mondial. Hein. Et comme elle a fait 5 sur 5 sur ses premières courses, je ne vois pas comment ce record pourrait lui échapper. Et alors pour info, elle n'a que 27 ans, c'est vous dire son efficacité et la capacité qu'elle va avoir à le pousser très très loin.
C'est vraiment la cerise sur le gâteau et en plus de ça, elle n'a que 27 ans.
Autant dire qu'elle a encore de belles années devant elle. Alors je ne vais pas tous les citer, mais tout au long de l'année, ne manquez pas les grands classiques. Roland Garros, alors je ne sais pas si c'est le dernier, mais en tout cas un des derniers de Rafael Nadal. Le Tour de France et notamment la 9e étape entre Saint-Léonard-de-Noblat et le Puy-de-Dôme. Alors au-delà du spectacle, ça passe pas loin de chez nous. Et surtout le Tour de France féminin avec une étape Collonges-la-Rouge-Montaignac-Lascaux. Là aussi l'occasion de rencontrer des athlètes hors du commun. Et notamment, j'espère qu'elle sera là, Aménike Van Vleuten qui est une machine de guerre sur le vélo. Et qui sont dans un cadre beaucoup plus accessible que le Tour masculin parce qu'il y a quand même beaucoup moins de médias, de choses cloisonnées. Donc n'hésitez pas à aller les rencontrer. Pour ce qui est du local, ne ratez pas le retour de la Tulbrive Nature. Alors le 2 avril, si mes infos sont bonnes, un événement majeur dans la région en trail, rando, VTT. Pour y avoir participé plusieurs fois, il y en a pour tous les goûts, du long, du court, de la course, de la rando. Le tout dans les paysages magnifiques de la Corrèze, avec des bénévoles toujours au top, agréables, sympas, souriants, avec toujours un mot pour vous rassurer. Et juste un petit conseil, il y a un seul point sur lequel il ne faut pas les écouter, c'est quand ils vous disent encore 200 mètres et après ça descend.
On sent l'habitude, on sent quelqu'un qui a vécu des mauvais moments là.
On sent la souffrance des gens qui te disent il y a 200 mètres et en fait il reste deux bornes. Mais c'est comme ça. Et on va finir par un peu d'autopromo. L'événement 2023 à ne pas rater, c'est la rando des Troubadours à Moustier-Ventadour. Rando VTT et pédestre qui aura lieu en mai, probablement autour du week-end du 15. Alors Moustier-Ventadour, pour ceux qui sont en train de chercher où ça se situe, c'est à 5 minutes d'Aigleton. Vous pouvez compter sur Lucien pour vous concocter des parcours sympas, un peu techniques mais pas trop, qui passent dans des endroits super, et je ne vous parle pas des bénévoles, je les connais tous, ils sont adorables, aux petits soins pour les randonneurs. Dernier petit point, je vous renouvelle l'appel que j'avais passé lors de mes premières chroniques. N'hésitez pas à nous communiquer les dates et lieux d'événements que vous organisez en Corrèze pour qu'on puisse parler de vous.
Absolument, merci infiniment Johan pour cette belle chronique, j'adore, qui nous remet un peu les pendules à l'heure avec le sport, en tout cas les chronos à l'heure, t'as vu, je suis hyper...
Bravo.
Voilà, tu as choisi un titre pour qu'on se quitte en musique. Stéphane et cher, déjeuner en paix, tu as des soucis, il y a des gens qui t'importunent quand tu manges.
Je suis pas toujours de bonne humeur le matin.
Bon, alors va pour un déjeuner en paix, en plus ça tombe bien, c'est l'heure de manger. Il est 13h40, vous êtes ici sur Bram FM, on est en direct jusqu'à 14h. Merci encore Johan, à bientôt.
Merci.
J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Tout va si mal, est-ce que rien ne va bien? Elle met un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je regarde sur la chaise le journal du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. Vois-tu qu'il va neiger, me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets. We'll be right back.
Stéphane Escher sur Bram FM avec le titre Déjeuner en paix. C'était le choix de Johan, notre chroniqueur sportif qui vient de faire sa chronique. Et c'est à moi de vous parler un peu d'actualité, en tout cas plutôt de découverte musicale. Et je vous en ai déjà parlé quelques mois après son Mercury Prize, la rappeur anglaise Little Sims pose ses textes introspectifs et rageurs sur 10 nouveaux titres orchestrés par son complice Inflow, considéré par ses pairs comme l'une des meilleures rappeuses contemporaines, et je ne suis pas ses pairs mais je la considère comme telle aussi, la chanteuse du Borough londonien Dilington, voilà, n'aura pas attendu bien longtemps pour donner une suite à son 4e album Some Things I Might Be Introvert. Quelques jours seulement après l'avoir annoncé sur les réseaux sociaux, Little Sims a décidé de se livrer en colère et sans les phares précédents d'orchestration grandiloquente sur 10 titres libérateurs de l'album No Thank You, qui est sorti le 12 décembre dernier. Posant son flow imparable sur sa narration habile, sur la musique de son complice Dean Josiah Cover, aka Uniflow, c'est vrai que c'est plus facile à dire, elle aborde avec puissance les mots d'angoisse, de frustration et de dépression. Mais c'est surtout à l'industrie du disque qu'elle s'en prend, fustigeant ce système qui tente d'exploiter son nom pour son propre profit, comme sur le manifeste Angel, où elle clame, je la cite, « Pourquoi vous ai-je donné les clés pour autoriser la merde dans mon nom ?» pour interrogation. Maintenant, je suis marquée et mortifiée. Puis elle continue, je la cite encore, « Je refuse d'être sur un navire négrier. Donnez-moi tous mes maîtres et réduisez vos salaires. » Voilà le message lancé à l'industrie du son commercial, véritable machine à broyer. Et si vous en doutez encore, demandez à ma collègue Isabelle, elle pourra vous parler de ce sujet pendant des heures. Bref, Little Sims poursuit ici sa quête identitaire et d'émancipation, signant son album sur son propre label du coup, et collaborant avec Inflow pour sculpter la palette sonore de chaque titre. L'atmosphère musicale s'est faite, plus méditative et intimiste, avec les arrangements du producteur, demeurant inventif, glissant ici et là sur des beats hip-hop, quelques envolées orchestrales, cinématographiques et laissant les chœurs gospel poignant, sublimer les propos de Little Sims, toujours plus percutants. La temporalité n'est pas laissée au hasard, les titres sont parfois impulsifs et expéditifs, ne s'éternisant pas pour rien. 2 minutes 12 suffisent pour dire les choses et parfois Little Sims se veut plus contemplative, comme pour le titre Broken qui dure lui 7 minutes et 30 secondes, où elle évoque notamment les discriminations sociales, raciales et sexuelles. Je n'en dis pas plus, je vous propose tout simplement d'écouter un titre de ce sublime album, disponible absolument partout, et je vous invite évidemment à aller l'écouter et le découvrir si ce n'est pas encore fait.
Honesty between the seller and the buyer should be a given, but man, I didn't know you were a liar. Dropped out of college, still I made it through the wire. We was trying to hustle whatever was 10 just for a fiver. Don't sell yourself short, miss, said the driver. Was on my way to getting caught in a crossfire. I mean, lavish living, dripping designer. Who you wearing? They're so enchanted by attire. Hearts on fire, bought the dream with every penny that I acquired. This is set up and you'll be next up to those prior. Devil works hard, but the business works harder. I vowed from now to work smarter. They won't do it like us, for the people by us. Why they wanna fight our spirit on higher? God made truth of everything I desire. I don't need much as long as I got my baby, he a rider. He's sitting beside her, that's who she confiding. They want you conniving, creeping with your side ting, making up a story that equals somebody buying. New world order, cause life as we know is dying. Not thriving, it's only a matter of timing. Ain't it just funny how you can literally give your everything? Somebody gonna turn around and tell you you ain't gave enough. Danger, what you afraid of? Acknowledging it's impossible now to restrain her. Worst thing I could have done is put trust in a stranger. But that needed to happen for me only to wake up. The shoots will get in your ear when your shit popping. Lies overflowing and they ain't stopping. You don't even recognize who it is that you're becoming. They don't give a shit long as the gravy train running.
My life is a blessing. I don't know what happens.
Start off so pure, do it for the love, nothing more. Nah, maybe to cop mama house, but nothing more. Maybe to sort my cousin out, but nothing more. Maybe I'll get a new coupe, nothing more. 15 to 100 shoes, nothing more. By the time you know it, that list never stopped growing, and you don't know what you even do this for.
Hearts on fire, hearts on grandeur. Ballroom gowns and champagne pours. Is the after party a social party? With everybody talking, the music should have been paused. Marble floors and tall glass doors is what you're in for. Did you read the clause? It was never about looking for results now. Every time you do something, you need an applause. Please keep your head on when you're going through the maze, cause navigating the fame is something you're never trained for. Tell me what you came for, wanted better days, and now you're running away from that very thing you prayed for. Tell me, am I tripping or is the light blinding? Am I anxious or am I excited? Am I calm or am I unbothered? Or maybe I needed my fire to be ignited. Hearts on.
My life is a blessing, but it comes with the stresses, and I can take it all.
My Heart's on Fire, le titre de Little Sims, disponible sur son dernier album dont je vous parlais il y a quelques instants. Il est 13h passé de 52 minutes. Dans quelques instants, je vous ferai la météo de ce week-end. Pour l'heure, c'est l'heure de la chronique en Limousin. 1, 2, 3, vive à l'Algérie.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine, le rendez-vous de ses territoires et ses acteurs. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
Il y a envahissement du terrain. Voilà, voilà ce qu'on a. Et le match est fini là. Hein.
Tout le monde rentre au vestiaire. Les joueurs français, les joueurs algériens. Et nous aurons perdu, malheureusement, dans cette affaire, un quart d'heure de jeu.
En 2010, Samuel Abbe décide de filmer l'Algérie avec en fond la Coupe du Monde de football. Il ne sait pas alors que le ballon rond va l'entraîner dans un périple de 10 ans à la rencontre des liens étroits entre France et Algérie.
À l'origine, c'est que moi, j'ai grandi à Limoges avec un ami proche qui a grandi en Algérie et qui est venu en France dans les années 90. Et en fait, j'ai toujours côtoyé, par l'intermédiaire de Bachir en l'occurrence, l'Algérie de loin, sans vraiment y connaître ou sans savoir grand-chose sur ce pays. Et en 2010, on décide d'aller ensemble là-bas. Et il s'avère que lui était étudiant en sociologie et moi en cinéma à l'époque. Et il s'avère que la Coupe du Monde de 2010, c'était le moment où l'Algérie revenait en phase finale de Coupe du Monde pour la première fois depuis des années. Et le fait est que c'était le point de départ pour 10 ans de tournage, où en fait c'était ponctué par ces moments de Coupe du Monde ou de matchs de qualification, où on a filmé effectivement les personnes qui regardent l'équipe d'Algérie, ou l'équipe de France d'ailleurs, mais en tout cas la Coupe du Monde. Et on a filmé beaucoup en Algérie, et on a aussi filmé en France effectivement. C'est un prétexte parce que c'est vraiment une grille de lecture ou une manière... on a pris le jeu du football pour essayer d'utiliser ça comme porte d'entrée dans cette question de la relation entre l'Algérie contemporaine et la France. À la base, c'était un film sur l'Algérie, et puis au fur et à mesure, moi je suis français, je suis né à Limoges, c'est un film qu'on a co-réalisé avec Amine Kouti, qui est algérien. Et c'est vrai que très vite, la problématique, en tout cas la question du film, c'est aussi qu'est-ce que ça veut dire porter un regard français sur l'Algérie. Et c'est pas juste un film, un reportage sur l'Algérie, c'est un documentaire, et du coup, il y a toute cette question-là de qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui se joue entre la France et l'Algérie pour notre génération, même pas forcément, mais de nos jours, on va dire. Et le football, ouais, c'est le prétexte pour pouvoir aller parler de ce qui se joue entre ces deux pays avec cette forme du jeu du ballon. On a voulu faire un film où c'est on regarde l'Algérie et ce regard oblige à regarder la France en retour, et c'est cet aller-retour permanent qui a construit le film, qui est sorti un petit peu du contenu parce qu'on voulait pas faire un exposé de sciences politiques, quelque chose, et on a toujours tenu à faire quelque chose d'accessible. 58, De Gaulle, la guerre d'Algérie, on a une petite idée, mais c'est vrai que quand on comprend l'ampleur de la guerre d'Algérie sur le basculement de la 4e à la 5e République et tout ce que ça engendre comme conséquence jusqu'à aujourd'hui, c'est extrêmement intéressant. Et pareil pour toute la question coloniale et pour toute l'histoire de ce territoire, sans parler d'avant, mais si on prend 1830-1960, si on rentre dans la réalité de ce qui s'est passé à ce moment-là et quelle est la présence française, et pas que européenne aussi, mais en Algérie française, et qu'est-ce que ça veut dire une colonie de peuplement qui n'a absolument rien à voir avec ce que peut être la Tunisie ou le Maroc, ou on peut avoir l'idée de comptoir, un peu de commerce, et de voilà, ben là en fait ça n'a rien à voir. C'est l'appropriation des terres, c'est beaucoup de mécanismes où en fait moi j'ai eu l'impression d'avoir une petite idée ou une connaissance parce que j'ai fait, je sais pas, un bac ou des études même supérieures de cinéma entre guillemets, donc on a un peu débit sur ça, mais c'est vraiment là-bas et en faisant ces allers-retours où je me suis dit ah oui. C'est pas pareil d'avoir une idée de ce qui s'est passé et de le comprendre, ou en tout cas un minimum de le digérer en se disant waouh, c'est ça vraiment c'est ça la France. Moi en tant que Français, j'hérite de ça, de ce que ça veut dire cette présence. Et là on parle que de l'Algérie, mais c'est vrai qu'en plus ça élargit aussi au continent africain.
Pour finaliser sa sortie, le film de Samuel Abb, One, Two, Three, Viva l'Algérie, a lancé une campagne de financement participatif que vous pouvez retrouver sur Hello Asso, One, Two, Three, Viva l'Algérie, le film. C'était Anne-Laure Lejolif de RPG pour Le Graal.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine est à retrouver sur legraal.info. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
Et vous retrouverez la chronique en Limousin sur les ondes de Bram FM à 18h. Mais pour l'heure, mesdames, messieurs, je vous propose la météo de ce week-end, à l'instant que tout le monde attend. Demain, samedi 7 janvier, le ciel sera couvert toute la journée. Il y aura tout de même quelques éclaircies dans la matinée, mais le temps va progressivement se dégrader et la pluie est à prévoir dans la nuit de samedi à dimanche sur l'ensemble du territoire. Pas de jaloux. Les températures seront fraîches en matinée. Il fera de 4 à 6 degrés. L'après-midi, comptez 9 degrés à Sornac, 10 à Aigleton et Masseret, 12 à Uzerche et jusqu'à 13 à Tulle, Argentat et Brive, le trio gagnant. Le vent soufflera sur Trégnac, mais uniquement sur Trégnac, et c'est pas une blague. Demain matin, des rafales sont attendues jusqu'à 45 km/h. Allez savoir pourquoi, c'est juste là, je ne sais pas. Dimanche, c'est donc sous la pluie, sous des pluies éparses, que les Corréziens et Corréziennes se réveilleront. Pluie qui nous accompagnera toute la journée du dimanche et puis qui va continuer un petit peu en début de semaine. Côté Mercure, les températures seront douces et il fera de 6 à 9 degrés pour les matinales. Et l'après-midi, comptez 8 à Trégnac, 9 à Saint-Pardoux-la-Croisille, 10 à Uzerche et jusqu'à 11 degrés qui sera la maximale, évidemment attendue dans le sud de la Corrèze, Tulle et Brive. Attention, dès dimanche midi, le vent va se lever, non pas juste à Trégnac, mais sur l'ensemble du territoire, et des rafales allant jusqu'à 60 km/h sont attendues vraiment un peu partout en Corrèze. Le vent va perdurer jusqu'à dans la nuit avec de la pluie et il y aura même quelques flocons qui sont à prévoir pour l'extrême nord corrézien dans la nuit de dimanche à lundi. Lundi, des averses se laisseront place progressivement à quelques éclaircies. Les températures seront fraîches en matinée et dans l'après-midi, elles seront équivalentes à celles de dimanche. Mais d'ici là, Miss Météo sera de retour en studio pour vous parler du temps de la semaine.